Vous écoutez RTL.
Allez tout de suite sur RTL. Change un peu de musique, on découvre l'histoire de la guitare. Bonjour Julien Bitoun.
Bonsoir.
Ah, bonsoir à 14h30.
Vous êtes à une autre heure que la nôtre, c'est ça?
Non, je suis tout simplement à l'heure de ce qui sonne le mieux, donc c'est bonsoir.
Ok, vous aimez les soirées. Vous êtes musicien, joueur de guitare, forcément, spécialiste de cet instrument. Vous jouez avec quelle guitare, tiens, déjà, pour commencer?
Je joue avec la guitare d'un luthier d'Évreux qui s'appelle Tony Giraud, qui fabrique des instruments hyper inspirants et très excitants.
Et comment elle est, à quel point elle est excitante, cette guitare? Elle ressemble à quoi?
C'est une question de feeling, tout simplement. Après, elle est rouge, ce qui est toujours un argument non négligeable. Vous en savez quelque chose.
Bah oui, RTL.
Et puis, elle n'a qu'un micro, donc elle est suffisamment simple pour me plaire.
Et c'est vrai qu'une guitare, elle continue de, comment dire, d'évoluer. Une guitare neuve, elle a de l'évolution en elle, comme un arbre encore vivant, un petit peu.
Une guitare neuve commence sa vie. Et c'est ça qui est poétiquement inspirant, c'est qu'une guitare va avoir la vie comme une personne va avoir une vie, en fonction des gens qui vont la jouer, des endroits où on va l'amener, de ce qu'on pourra faire avec elle. Et effectivement, une guitare évolue et vieillit et peut bien ou mal vieillir comme les gens.
C'est une relation particulière, celle qui unit le guitariste et son instrument. Tiens, on vous raconte pourquoi B.B. King avait surnommé sa guitare Lucille dans un instant. Et puis une autre question basique, mais qui a inventé la guitare? À tout de suite sur RTL.
Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter, Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France. Curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les Pink Floyd, Gary Moore, pour parler guitare dans la curiosité. Bon, c'est la fête de la musique, évidemment. Alors, on va peut-être avoir des grands bonheurs les uns et les autres, ou les oreilles qui saignent. Ça dépend du quartier dans lequel on habite. Mais ça nous a donné envie de parler musique et de raconter donc l'histoire de la guitare avec vous, Julien Bitoun. Je rappelle que vous êtes musicien, grand connaisseur de cet instrument. On va commencer par une histoire d'homme. Et une guitare, je disais tout à l'heure, B.B. King qui appelle sa guitare Lucille. Pourquoi ?
Effectivement, B.B. King qui jouait dans un bar en 1949, donc ça date. Et surtout, c'était un bar qui était chauffé avec un poêle au kérosène. Et du coup, suite à une bagarre dans le bar, le poêle au kérosène est renversé. Donc évidemment, le bâtiment prend feu. Et B.B. King s'enfuit de la salle, mais se rend compte qu'il a oublié sa guitare à l'intérieur. Il n'a pas les moyens d'en acheter une autre, donc il se reprécipite à l'intérieur pour aller chercher sa guitare et s'en extirpe des flammes avec son instrument à la main. Suite à ça, il décide de surnommer sa guitare Lucille, puisque c'est le nom de la femme pour laquelle s'était déclenchée la bagarre. Et il a toujours dit, il a appelé sa guitare Lucille pour se souvenir de ne jamais refaire quelque chose d'aussi stupide.
Ouais, c'est pas mal comme histoire. Et ça arrive souvent que les grands guitaristes comme ça donnent un surnom féminin à leur guitare.
Il y en a quelques-unes, effectivement. Ouais. Après, le cas B.B. King est intéressant. On sait qu'il a donné ce nom à toutes ses guitares. C'est pas une guitare spécifique. D'accord. C'est qu'à partir du moment où il choisissait une guitare, elle devenait Lucille. Donc c'est une seule femme et beaucoup de visages ou quelque chose dans le style.
Julien Bitoun, dans cette émission, on adore revenir aux origines des choses parce qu'on prend pas souvent le temps de se poser cette question-là. La guitare, elle est née où? Et quand ?
Alors, c'est une question qui, évidemment, n'a pas de réponse. Ou des
ça
réponses...
Commence bien.
C'est-à-dire qu'elle est née dans
voilà,
plusieurs pays. Bonsoir.
Merci, au revoir.
Elle est née dans plusieurs pays, la guitare,
dans plusieurs régions du monde à la fois. En fait, tout simplement, l'origine de la guitare, c'est l'arc musical. C'est-à-dire l'arc qu'on utilise pour la guerre. Quand on tire sur la corde, ça fait un son. Ouais. Et c'est une forme d'instrument qui remonte, dont on trouve des signes dans des peintures rupestres. mètres jusqu'à moins 13 000.
On dit que parfois la guitare est née en Égypte et que c'était une chanteuse égyptienne, Armors, c'est ça, qui
Armose,
grattait dessus, ouais,
Armose, qui effectivement apparaît sur des bas-reliefs en 1700 avant notre ère. Mais effectivement, c'est une apparition, ce qui montre qu'effectivement l'instrument s'était déjà développé à l'époque et il s'est développé aussi via la Mésopotamie, il s'est développé via l'Espagne, via les Maures en Espagne, donc il y a plein d'origines différentes et plein de formes différentes avant d'arriver à la forme actuelle et définitive.
Aujourd'hui, on est d'accord, la guitare, ça a 6 cordes. Elle n'a pas toujours eu 6 cordes, la guitare ?
Non, on est passé par 3, 4 et une longue période avec 5 cordes, et plus spécifiquement 5 cordes doublées, donc 10 cordes en tout.
Et ça change quoi de rajouter des cordes au fil des siècles ?
C'est pour suivre les modes, tout simplement. C'est-à-dire que les modes musicales exigent une certaine place donnée à la guitare dans l'orchestre, et en fonction de ça, la guitare aura un ambitus, une étendue de notes plus ou moins élevée, et donc il faut plus ou moins de cordes pour couvrir cet ambitus. Mmh.
Vous publiez Guitars Heroes, Julien Bitoun, aux éditions Grunt, avec Jimi Hendrix et...
Guitars and Heroes, il y a une
Guitars
espèce
and Heroes, ah oui, bah oui, c'est mon côté myope ça. Guitars and Heroes, donc c'est toujours chez Grunt, ça j'ai bien lu. Et ça, donc il y a bien Jimi Hendrix, et il y a une guitare électrique aussi.
C'est une machine à laver, regardez bien.
En couverture, ça suffit les vannes, si Denis. D'où ma question, elle a été laborieuse, mais elle arrive. Qui a inventé la guitare électrique?
Et là, vous allez dire bonsoir, il n'y a pas de réponse, c'est ça?
Si, là pour le coup c'est beaucoup plus simple puisque c'est plus récent. Il y a eu des tentatives d'électrification à partir de 1931 chez Rickenbacker par exemple, qui a électrifié une guitare hawaïenne.
C'est un musicien, Rickenbacker ou c'est une marque?
C'est une marque. Le musicien en question était Georges Beauchamp, si on veut rentrer dans les détails. Et puis ensuite on est passé donc de ce système qui consistait à électrifier des instruments préexistants à une guitare spécifiquement conçue pour l'électrification. Donc en gros une planche qui n'allait pas partir en Larsen à la première sollicitation.
Et la guitare électrique, elle est forcément liée à l'histoire du rock?
La guitare électrique est liée de toute façon à l'histoire de la musique au sens large. C'est-à-dire que l'électrique a permis l'apparition de certains styles. Tout simplement, elle a permis aux guitaristes de se faire entendre par rapport à une section rythmique, par rapport à un batteur qui forcément gagnera toujours contre une acoustique. Ouais. Donc effectivement, certains styles ne peuvent exister que par la guitare électrique.
Et est-ce qu'elle a été diabolisée comme les rockers ont pu l'être au début, à leur apparition?
Diabolisée, non, parce que c'était pas un instrument spécialement subversif au début. C'était plus l'arme des bouseux de la country. Mais par contre, elle a été ridiculisée en ça que, en termes de lutherie, c'était vraiment une formule extrêmement basique quand on la compare aux guitares précédentes qui étaient dérivées de la lutherie violon. Là, la lutherie solid body de guitare électrique, c'est vraiment une planche sciée à une autre planche et on appelle ça une guitare.
La solid body, donc c'est le nom de cette première guitare électrique, des guitares, des héros. Et une question, quel est le prix de la guitare la plus chère au monde? Réponse à venir sur RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Avec vous, Julien Bitoun nous raconte l'histoire de la guitare et de ceux qui en ont fait un instrument majeur, indissociablement lié à l'histoire du rock. On vient d'entendre deux extraits de chansons signées Hotel California, évidemment, Eagles et Deep Purple, Smoke on the Water. Nous avons pas, vous nous connaissez, on choisit pas les extraits par hasard, pas juste pour se faire plaisir.
Ils sont difficiles à jouer.
Vous finissez mes questions maintenant.
J'adore finir vos questions.
Alors, déjà, effectivement, sur le choix des titres, je trouve ça intéressant parce que, effectivement, chaque décennie a son titre emblématique, son riff emblématique, le titre qui donne envie à tout le monde de jouer de la guitare. Donc, effectivement, Smoke on the Water et Hotel California pour les années 70. Alors, pour ce qui est de la difficulté de jeu, c'est un autre débat puisque un titre peut être compliqué techniquement, mais pas compliqué en termes d'émotion. Parler de niveau à la guitare, c'est comparer ça à un sport et on arrive forcément au côté un peu stérile du concours de celui qui pisse le plus loin. Donc effectivement, pour moi, la pierre de touche d'un grand moment de guitare, c'est pas forcément que ce soit compliqué ou pas à jouer, c'est ce que ça fait ressentir à la personne qui écoute.
Mais il y a des morceaux à guitare, c'est-à-dire des chansons à guitare, des chansons qui mettent tellement en valeur la guitare qu'elles sont incontournables.
Bien sûr,
sur lesquelles pour vous, par exemple.
Celles qu'on vient d'écouter.
Ouais.
Et puis après, il y en a une par décennie. Hein, donc années 80, ce serait Sweet Child O' Mine des Guns.
Ouais.
Années 90, ce serait Smells Like Teen Spirit.
Bien sûr.
Années 2000, ce serait Seven Nation Army. Et année 2010, on attend encore.
Ah, il se dépêchait en 2018 là.
La décennie n'est pas tout à fait terminée. Et celle-là, tiens, on écoute du Jimi Hendrix. Hein. Julien Bitoun, c'est quel morceau et pourquoi vous l'avez choisi ?
Alors c'est Purple Haze et je l'ai choisi tout simplement parce que c'est une rare occasion de faire écouter du Jimi Hendrix sur la première radio de France à une heure de grande écoute.
Ouais.
Donc je me suis dit, quitte à ce que ça passe, autant mettre le morceau le plus connu et accessible dans l'espoir que quelqu'un découvre par ce biais-là.
Il l'adorait sa guitare, Jimi Hendrix ?
C'était plus que ça, c'était plus que de l'adoration, c'était une véritable histoire d'amour et une histoire d'amour autour d'une collaboration. C'est-à-dire que la guitare était la muse et l'inspiration d'Hendrix.
Tu aurais qu'il dormait avec ?
Sans doute, mais ça on l'a tous fait à un moment ou à un autre.
Ah ouais ?
Bien sûr, mais au-delà de ça et au-delà du côté un peu folklorique d'Hendrix, donc il jouait avec ses dents, il dormait avec, etc. C'est un guitariste avec une passion et une approche musicale révolutionnaire comme il y en a eu très peu d'autres. Et au-delà de tout ça, le côté « il dormait avec », symboliquement, c'est tout simplement une question de travail aussi. C'est-à-dire, dormir avec, ça peut vouloir dire se lever contre elle, mais ça peut aussi vouloir dire bosser tellement que on ne la pose que pour se coucher, et dès qu'on se lève, on la reprend.
Mmh.
Donc effectivement, on ne devient pas un grand guitariste comme Hendrix sans des heures et des heures de boulot.
On a plein de questions de curieux à vous poser encore, Julien Bitoun. C'est quel est le prix de la guitare la plus chère au monde, et quelle est cette guitare ?
Alors, c'est y a une guitare assez peu excitante qui est partie aux enchères pour 2,7 millions de dollars, qui est une Stratocaster blanche qui avait été signée par à peu près toute la royauté du rock britannique.
Un peu un coup marketing, quoi.
Non, pas un coup marketing, un coup caritatif.
Ah d'accord,
puisque c'était pour le tsunami en Asie en 2005.
Mm-hmm.
Donc là, pour le coup, la guitare est partie pour les signatures, mais aussi pour la cause.
Mais pas pour sa qualité musicale.
Pas pour sa qualité intrinsèque, ni pour son histoire.
Et Jimi Hendrix, il y a une de ses guitares qui est partie pour
là,
très
pour
cher
le coup,
aussi.
C'est la deuxième plus chère.
Ouais.
C'est la fameuse guitare de Woodstock qui est partie pour près de 2 millions. Et là, effectivement, c'est nettement plus émouvant comme histoire, puisque c'est une guitare qui a vécu le festival de Woodstock et qui a vécu ce dernier concert du festival de Woodstock, puisque Jimi Hendrix a fermé le festival à 9h du matin le lundi.
Ouais. Qu'est-ce qui fait le prix d'une guitare ? Si j'arrive à une vente aux enchères, c'est quoi ?
Alors, il y a plusieurs choses, évidemment. Il y a la qualité intrinsèque de l'instrument, mais ça, c'est une toute petite partie. Il y a la rareté de l'instrument. Et il y a évidemment son association à des musiciens connus. Donc une guitare qui a été beaucoup jouée par des musiciens connus et qui a été amplement documentée via des photos, des vidéos, etc., partira forcément plus cher.
Julien Bitoun, vous êtes l'auteur d'un très beau livre paru aux éditions Grund, Guitars and Heroes. Mm-hmm. And, oui.
On rajoute l'esperluette. Hein. Mais elle est mal dessinée, l'esperluette, on la dit pas bien.
Avec vous, que ces guitares, ce sont des vraies survivantes. Elles sont pas toujours sûres de sortir intactes d'un concert.
Ça, c'est sûr, oui.
Exemple flamboyant à venir sur RTL avec encore Jimi Hendrix, c'est le patron, il n'y a rien à dire.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Passion guitare sur RTL avec notre invité Julien Bitoun. On écoute du Lenny Kravitz, du Jimi Hendrix évidemment. Avec.
Elle est bien la programmation. Oui,
ouais, c'est pas mal.
Il est bien notre réalisateur
avez,
Sébastien Duduy.
Vous avez
aussi
un peu aidé et Sébastien Duduy a très bien bossé. Foxy Lady, c'est ce qu'on écoute de Jimi Hendrix. Ça date de 1967. Ça tombe bien. On va raconter une anecdote qui date aussi de cette année. Festival de Monterey 1967. Hendrix joue avec une Stratocaster magnifique. Vous pouvez nous la décrire, tiens, déjà cette
alors,
guitare.
En l'occurrence, effectivement, Jimmy a eu beaucoup de Stratocaster et celle-là, il l'a décorée en la peignant à la main, donc avec plein de motifs, et en peignant carrément un poème sur le dos de la guitare, qui était un poème tout simplement pour demander pardon à sa guitare de ce qu'il allait lui faire, puisque c'était la sacrifiée du concert. En gros, pour la petite histoire, Léou et Hendrix partageaient la tête d'affiche, et ils ont tiré au sort pour savoir qui passerait en premier. Évidemment, ils voulaient tous jouer en dernier, et Hendrix est passé avant Léou, et donc pour se venger, parce qu'il savait que Léou avait l'habitude de fracasser leur matos, Hendrix a mis le feu à sa guitare pour emmerder Léou qui devait passer derrière.
Et
du
donc
genre, essaye de passer après ça.
Et donc il s'excuse par avance auprès de sa guitare.
Bien sûr.
Du feu de joie qui va
exactement,
allumer avec
elle, de la même manière que les Incas décoraient et peignaient leurs sacrifiés avec des bijoux. Effectivement, il a offert une belle parure à sa guitare avant de la brûler
et
sur
Léou,
scène.
Et Léou, ils ont fait quoi pour finir? Une révérence? Qu'est-ce qu'ils ont dû trouver? Ils ont
cassé
quand même une guitare?
Du Menuet, ils ont joué du
Menuet. Léou, donc effectivement, ils étaient largement à la hauteur.
C'est vrai que le casser de guitare, si j'ose dire, c'est comme un mouvement de gymnastique, vous voyez, spécialité des Who et de Pete Townshend. Est-ce que c'est arrivé par hasard? J'ai lu ça aussi dans votre livre.
Tout a commencé effectivement par une erreur, c'est-à-dire qu'il jouait dans un club où le plafond était très bas, et Pete Townshend donc a brandi sa guitare, une Rickenbacker encore une fois, qui sont des guitares relativement fragiles, et le manche est resté dans le plafond du club, et évidemment les clients qui revenaient le lendemain s'attendaient à ce qu'ils refassent exactement la même chose, et c'est devenu une tradition justifiée par le côté performance artistique.
Vous voulez un autre maître guitariste? Voici Eddie Van Halen. Virtuose, hein, évidemment. Il avait un style particulier, Eddie Van Halen.
Alors, Van Halen, effectivement, on retient beaucoup le côté, ce qu'on appelle le tapping, c'est-à-dire le fait de jouer avec les deux mains sur le manche, au lieu d'une seule main. Alors après, Van Halen est spécial à plusieurs titres. C'est-à-dire que par exemple, en tant que prof, quand je donne des cours au studio des Salauds, j'ai des élèves qui jouent très vite, mais qui n'ont pas le feu sacré dans leurs notes. Et pour dire les choses de manière très romantique, Eddie Van Halen, lui, joue très vite, mais a un vibré et une manière de former ses notes qui est digne des plus grands bluesmen. Donc c'est ce côté blues, les doigts dans la prise, qui est particulièrement touchant chez Eddie Van Halen.
C'est-à-dire que quand on essaie de jouer très vite, des fois on peut faire de la bouillie, c'est ça, c'est on
de
distingue plus
façon,
les notes les unes des autres
de toute façon
près,
pour
quoi.
Jouer très vite il faut d'abord jouer très lentement. C'est le principe, c'est qu'on joue très vite que quand c'est très propre à vitesse inférieure.
Est-ce qu'on a encore un peu de jeux interdits en magasin, parce qu'on l'a eu tout à l'heure? Voilà.
J'en profite pour vous poser une question. On peut commencer la guitare à quel âge? Vous nous donnez envie là d'en faire. Et...
On peut commencer très tôt. Hein. J'ai connu
c'est
des
quoi,
élèves 4, qui avaient commencé vers 4-5 ans.
Et vous avez commencé par ça, vous aussi?
Pas du tout.
Ah.
Non, en fait, il y a eu tout un lavage de cerveau des conservatoires qui disait qu'il fallait absolument commencer par la guitare classique, mais en fait on peut commencer par la guitare qui nous plaît, c'est-à-dire que si on est attiré par le hard rock, commencer sur la guitare classique,
vous remettez le plaisir,
c'est le meilleur
au centre
moyen
de la musique,
s'emmerder.
C'est ça,
exactement, puisque c'est difficile, donc autant s'amuser et pas se mettre des obstacles supplémentaires.
Bon bah écoutez, est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps. Merci beaucoup. Je voulais écouter un peu de Zappa, mais il est 59, donc c'est bon. Peut-être en bête comme ça. Voilà, un peu de Zappa pour nous quitter. Merci beaucoup.
Merci
Julien Bitoun. Votre livre, je vais peut-être réussir à le prononcer une fois correctement. Je prends mon souffle. Guitars and Heroes. Enfin, il y a pas
voilà,
de H.
Voilà,
hand,
un animateur
de Heroes. Julien Bitoun, c'est chez Green. À très bientôt. Merci.
À bientôt. Bon vent.
Et bonne fête de la musique à tous.
Et bonne fête. Oui.
Vous écoutez RTL.